VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Nitya Dakar, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Cameroun, deux gendarmes ont été abattus mardi soir par ce que le gouvernement appelle des terroristes sécessionnistes à Bamenda, dans le nord-ouest du pays, l'un des épicentres de la contestation anglophone. Ce qui porte à 3 le nombre de gendarmes abattus dans cette région en 2 jours. Le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Tiroma Bakari, également ministre de la Communication, a affirmé ce mercredi à l'AFP, je cite, « Les terroristes sécessionnistes ont tué 2 gendarmes cette nuit à Bamenda ». M. Tiroma a souligné que les assaillants ont abattu les gendarmes avec des armes de guerre et se sont enfuis en emportant les armes des victimes. En RDC, l'administration du président américain Donald Trump a demandé au président congolais Joseph Kabila de quitter le pouvoir après les élections annoncées pour décembre 2018, selon un communiqué du département d'État qui salue la publication du calendrier électoral. L'ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Herman Cohen, estime que l'avancée en RDC résulte des efforts de Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU.
C'est une victoire pour Mme Haley. Mais en même temps, Mme Haley a dit qu'il faut qu'il y ait une élection tôt dans l'année 2018. Et comme c'est tard, c'est une déception. Mais quand même, je crois que Mme Haley a fait une ligne rouge. Il faut qu'il y ait une élection démocratique. Il ne faut pas que président Kabila se représente comme candidat et il faut que tout le monde soit éligible, y compris les prisonniers politiques et les gens comme Moïse Katumbi qui sont en exil. Donc s'il y a encore de la glissement, il y aura des sanctions plus hautes, je suis sûr.
Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. La guerre en RDC fait grossir le flot des réfugiés en Zambie. Ces derniers passent la frontière commune pour fuir la guerre, les meurtres et les viols. Plusieurs milliers de ressortissants de la République démocratique du Congo ont ainsi cherché refuge ces dernières semaines en Zambie voisine, qui peine à les accueillir. La plupart des quelques 6000 personnes recensées par les autorités de Lusaka sont originaires des provinces du Haut-Katanga et du Tanganyika dans le sud-est de la RDC, en proie à des affrontements entre l'armée régulière de Kinshasa et des milices. Selon le HCR, le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, cette vague de réfugiés est la plus importante depuis 5 ans en Zambie. En RCA, plus de 1200 anciens combattants de l'ex-Seleka, occupant 3 casernes dans la capitale Bangui, ont été sommés de partir par le gouvernement. Certains refusent d'obtempérer au moment où l'ONU veut augmenter ses effectifs de paix dans le pays, John Lyndon.
En décembre 2013, près de 3000 rebelles de l'ex-Seleka sont entrés à Bangui pour chasser le président François Bozizé et occuper des casernes militaires. Depuis le départ en exil de Michel Djotodia, certains combattants sont rentrés chez eux, mais environ 1200 occupent toujours 3 casernes. Ils refusent de partir malgré une enveloppe de 100 000 francs CFA offerte à chacun d'eux par le gouvernement. Ces membres de l'ex-Seleka exigent 2 millions de francs CFA pour intégrer le processus de désarmement soutenu par l'ONU. Le Conseil de sécurité est appelé le 15 novembre à renouveler le mandat de la MINUSCA. Antonio Guterres, patron de l'ONU, a demandé un renfort de 900 casques bleus supplémentaires. Ce renforcement n'a toujours pas reçu l'adhésion des États-Unis, plus grand contributeur de fonds des Nations Unies.
Corne de l'Afrique, la mission de l'Union africaine au Somalie, la MISOM, a annoncé qu'elle retirait 1 millier de ses 22 000 soldats de ce pays cette année dans le cadre d'un plan prévoyant son retrait complet d'ici décembre 2020. Cette annonce a été faite par le représentant spécial de l'Union africaine en Somalie, Francisco Madeira, dans un communiqué publié mardi. La MISOM et ses 22 000 hommes venus d'Ouganda, du Burundi, de Djibouti, du Kenya et d'Éthiopie, a été déployé en 2007 pour soutenir le fragile gouvernement central somalien contre les militants islamistes Shebab.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis maintenant, ce 8 novembre marque le premier anniversaire de l'élection du président Donald Trump à la Maison-Blanche. Le milliardaire est devenu le 45e président des États-Unis en battant la démocrate Hillary Clinton. Un an après, quel bilan et quelle perspective? Le point avec Dili Dico.
Il y a un an, Donald Trump a créé la stupéfaction en gagnant l'élection présidentielle, une victoire à laquelle, semble-t-il, peu de gens s'attendaient.
Je m'adresse à tous les républicains, aux démocrates et aux indépendants américains. Il est temps pour nous de nous rassembler pour former un peuple uni.
Lors de son investiture, Donald Trump s'est engagé auprès de la classe ouvrière à laquelle il doit largement sa victoire.
Les politiques n'ont cessé de s'enrichir pendant que le chômage augmentait et les usines fermaient. Cette destruction de l'Amérique prend fin ici, dès cet instant.
Selon l'analyste John Fiery, l'élection de Donald Trump était synonyme de changement sans précédent dans la politique américaine.
Désormais, la base électorale républicaine est constituée de personnes ayant voté pour Trump. Cet électorat considère une attaque sur Trump comme une agression personnelle.
La présidence de Donald Trump a commencé par des moments difficiles, de nombreuses manifestations et une controverse sur le nombre de personnes venues assister à sa prestation de serment. Sean Spicer, ancien porte-parole de la Maison-Blanche au sujet de cette estimation.
Il s'agit de la plus grande foule venue assister à une investiture, point barre, autant par le nombre d'individus sur place à Washington que par l'audience internationale.
Le président a toutefois connu un succès important dès le début de son mandat avec la nomination du juge Neil Gorsuch à la Cour suprême. Il a aussi reçu des éloges pour sa gestion de l'économie marquée par une expansion du marché boursier et ses victoires militaires contre le groupe État islamique. Mais Donald Trump et ses alliés ont aussi essuyé des revers avec le rejet par le Sénat de la nouvelle loi sur la santé proposée par les Républicains. Cet échec a considérablement retardé le programme du président, Alan Lichtman de la American University.
Aucun parti contrôlant à la fois le Congrès et la Maison-Blanche n'a eu des résultats aussi mitigés que l'administration Trump et les Républicains.
Les nombreux tweets du président ont aussi constitué une distraction face aux véritables enjeux. De même que ses propos controversés sur la manifestation violente de Charlottesville en Virginie.
Il y a des très bons individus dans les deux camps qui se sont opposés.
Le style tranchant du président lors de ses multiples rassemblements a servi à galvaniser son électorat et la plupart des républicains au Congrès ont pris note. Matthew Dalek de l'Université George Washington.
Le fait que les présidents se maintiennent à un taux d'approbation allant des 35 à 38% empêche les républicains de les défier ouvertement.
Cependant, les récentes inculpations judiciaires dans l'enquête sur l'ingérence russe menacent de ternir la Maison-Blanche et ravivent les inquiétudes sur les orientations futures du président. Paris Sabato, de l'Université de Virginie.
Bon, peut-il renverser la vapeur? Oui. Peut-il être réélu? Certainement. Parfois, le plus dur est de se faire élire la première fois. Mais il se rend lui-même les choses plus compliquées, tant dans la réalisation de son programme, dans le maintien d'une majorité républicaine au Congrès, que pour une possible réélection.
Il va sans dire que l'élection de Donald Trump constitue un tournant dans la politique américaine, mais son impact sur les États-Unis et le monde reste à ce jour une incertitude.
États-Unis toujours, multiples victoires du Parti démocrate aux élections locales de mardi dans plusieurs États du pays. Le démocrate Ralph Northam a été élu mardi gouverneur de la Virginie en battant son rival républicain Ed Gillespie. Dans le New Jersey, un autre démocrate, Phil Murphy, ancien banquier d'investissement et ex-ambassadeur des États-Unis en Allemagne, a vaincu la républicaine Kim Guadagno. Les électeurs de New York ont voté également ce mardi pour désigner leur maire. Le démocrate sortant Bill de Blasio a facilement décroché un second mandat, reléguant à 35 points derrière lui selon des résultats partiels la candidate républicaine Nicole Maliotakis, une élue de l'Assemblée de l'État de New York. Et puis, comme à New York, le maire démocrate de Boston, Marty Walsh, a été réélu. Une très bonne journée donc pour le camp démocrate. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.